lâché. T'es qu'un cas, je te hais. Tu me quittes, je suis cassé. On s'en va déclarer notre fond accordé. Quelques notes en plus, ça fera du bien. Un joli final pour notre fin. Un thème qui défait donc ça bien. Un bouquet de roses et de jasmin. Quelques notes en plus, ça fera du bien. Un joli final pour notre fin. Tu me quittes, c'est un cap. Tu me plaques, je te quitte. Sois tranquille, je suis bien. Quand arrive notre fin, je raccroche, tu acquiesces. Tu te barres, moi j'encaisse. Tu me fuis, c'est pratique. Je te hais, c'est physique. Qui t'aime, qui te fait donc ça bien. Un bouquet de rose et de jasmin. Quelques notes en plus, ça fera du bien. Un joli final pour notre fin. Qui t'aime, qui te fait donc ça bien. Quelques notes en plus, ça fera du bien. Un joli final pour notre fin. Qui t'aime, qui te fait donc ça bien. Un bouquet de roses et de jasmin. Quelques notes en plus, ça fera du bien. Un joli final pour notre fin.
Et bonsoir Internet, bonsoir YouTube, bienvenue, bienvenue sur Mademoiselle. On est en live ce soir pour discuter avec Mona Chollet, qu'on a l'honneur d'accueillir pour la sortie de son dernier ouvrage Sorcière, la puissance invaincue des femmes. On venait d'écouter Emma Oscar et Irma, qui ont fait une session acoustique il y a tout juste un mois dans les locaux de Mademoiselle, qui s'était quitte à me quitter. Et donc j'enchaîne directement. Donc moi je suis Marie, je m'occupe des événements et de la boxe Mademoiselle, chez Mademoiselle, comme le dit le titre. Je fais partie des rédactrices de Mademoiselle qui ont construit leur culture féministe avec les ouvrages de Mona Chollet. Donc je suis particulièrement ravie d'animer cette rencontre. On a proposé à une dizaine de lectrices de venir échanger avec Mona sur son dernier ouvrage et sur cette véritable tendance qui est en train d'émerger dans le débat public sur les sorcières qui sont dont on est en train de réhabiliter l'image en fait ces derniers mois, j'ai la sensation. On fait ce live en partenariat avec les éditions Zone qui ont sorti le livre. Et donc pour présenter Mona très rapidement, Mona, vous êtes chef d'édition au monde diplomatique, vous êtes journaliste et essayiste et on vous connaît notamment pour deux ouvrages, Beauté fatale, qui a été publié en 2012 et Chez soi en 2015, que vous êtes venu d'ailleurs présenter sur Mademoiselle en interview vidéo. Nous, ce qui nous a marqué, c'est que dans vos travaux, vous êtes notamment attaché à analyser les injonctions que les industries de la mode et de la beauté produisent sur les corps des femmes. Et c'est un sujet qui nous touche particulièrement chez Mademoiselle. Et vous avez aussi démontré que les pressions sociétales qui enjoignent les femmes, il existe des pressions sociétales qui enjoignent les femmes à devenir de parfaites ménagères. Donc on est vraiment de nombreuses lectrices à être touchées par vos travaux. Ce sont des thèmes qui nous parlent énormément. Je vous propose qu'on passe cette heure ensemble en déroulant deux grands sujets. Donc déjà, on va essayer de voir qui sont les sorcières, qui ont été les sorcières dans l'histoire et qui elles sont aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, on va parler de vos motivations, en fait, à parler de ces sorcières et à écrire sur ce mouvement. Donc pour commencer, je vais appeler une première lectrice autour de la table et je commence par Aude. Salut Aude. Alors est-ce que tu peux te présenter brièvement?
Bonsoir, alors je m'appelle Aude, j'ai 23 ans, je suis étudiante en histoire de l'art et je travaille sur la représentation des sorcières au 19e siècle.
T'es totalement légitime, donc autour de cette table. Vous l'êtes toutes, hein, mais...
Donc moi, je me posais une question avant la lecture de votre ouvrage et qui reste... imposable, entre guillemets, après la lecture. Je me demande, selon vous, est-ce qu'il existe un portrait type de la sorcière moderne ?
La sorcière moderne, je ne sais pas trop. En fait, la particularité de ce livre, c'est que j'ai pris le sujet un peu en biais, c'est-à-dire que j'ai donné peut-être mon interprétation de la sorcière. C'est-à-dire que je suis partie des types de femmes qui étaient accusées de sorcellerie à l'époque des chasses aux sorcières, et j'ai gardé certains traits qui les caractérisaient, qui m'intéressaient particulièrement, et j'ai essayé de voir ce qu'il en restait aujourd'hui, et aussi quel modèle de femme résistait toujours, s'obstinait à rester des sorcières en quelque sorte. Mais après, la plupart des femmes dont j'ai parlé dans le livre se définissent pas forcément elles-mêmes comme sorcières, parfois même pas comme féministes d'ailleurs, donc c'est vraiment mon regard sur elles qui en fait des sorcières.
Ok, merci. Merci Aude.
Merci beaucoup.
Je vais demander à Anaïs de venir poser sa question. Merci. C'est un jeu de chaise musicale, hein. C'est le principe des lives chez Mademoiselle.
Bonsoir.
Salut Anaïs, est-ce que tu peux te présenter juste ?
Donc je m'appelle Anaïs, j'ai 24 ans et je suis designer. Voilà, donc la question que je voudrais poser, donc c'est après la lecture de votre livre, vraiment vous avez une question. Bien que l'image de la sorcière a évolué au cours des siècles, donc notamment grâce aux féministes des années 70, est-ce que la sorcière contemporaine est purgée de ses connotations négatives ?
Ah oui, bonne question. C'est vrai que, en tant que telle, probablement, parce que ce qu'on appelle sorcière aujourd'hui, c'est plutôt des héroïnes, des personnages positifs, en fait, dans la culture. On voit bien les personnages de sorcières qui ont émergé ces dernières années dans les séries, au cinéma, dans Harry Potter, enfin Hermione, Willow, Sabrina. Enfin, c'est plutôt des personnages positifs auxquels on peut s'identifier. Mais par contre, moi, j'ai l'impression que l'héritage des chasses aux sorcières qui donne une image négative de ces femmes, il est toujours là de manière... Enfin, je pense qu'il reste, par exemple, dans la mauvaise image qu'on a des vieilles femmes. Et c'est vrai que d'ailleurs, on a toujours le réflexe de... Enfin, dès qu'il y a une vieille voisine un peu bizarre, on la traite de sorcière. Donc c'est une injure qui est encore toujours un peu... qui ressort très facilement, toujours. Voilà, mais parfois, je pense qu'on peut être encore victime des mêmes stéréotypes qu'à l'époque sans forcément prononcer le mot de sorcière, en fait.
Je sais pas si ça a répondu à ma question. Après, c'est sûr que on voit aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a énormément de sorcières qui sont utilisées dans la pop culture. Par exemple, dans les séries, on voit qu'il y a même des reboots qui se font de Charmed, de Sabrina qui vont sortir. Et c'est vrai qu'on se posait, à la vue de votre, la lecture de votre livre, c'est vrai qu'on se rend compte que même des préjugés de l'époque sont encore appliqués aujourd'hui aux femmes, en fait. Et du coup, c'est pour ça que la question m'était venue. Je voulais avoir votre avis.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup, Anaïs. Je vais appeler Sophie.
Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Sophie. J'ai 28 ans. Je travaille dans le secteur culturel et en parallèle, je fais de la musique. J'écris un peu aussi. Ce qui vient d'être dit, ça répond un petit peu à la question que je voulais poser, à savoir... justement, dans tous les personnages de sorcières véhiculés par la culture, que ce soit dans les séries, les télés, les romans, est-ce qu'il y a des personnages qu'on peut considérer plus féministes que d'autres ? Enfin, c'est une question que je me posais avant de lire le livre. J'avoue, je pensais beaucoup à des personnages très particuliers, comme Samantha de Ma Sorcière Bien-Aimée, celle aussi des Sorcières d'East Wick. J'ai eu une réponse là, juste à l'instant, et aussi en lisant le livre. Donc...
Après, j'ai peut-être pas tous ces. Je suis pas sûre de pouvoir vraiment analyser tous ces personnages. Je les connais pas forcément bien tous, mais Ma Sorcière Bien-Aimée, c'est un cas intéressant parce que c'est. Enfin, on voit vraiment la domestication de la sorcière en fait, c'est-à-dire celle qui devient la parfaite ménagère, qui veut plus du tout entendre parler de tous ses pouvoirs.
Oui, c'est un peu ce que je me suis dit, en fait. C'est une espèce de polissage de la figure, la femme un peu attachée à son mari et qui s'oublie complètement dans la domestication.
Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la mère qui est complètement consternée par l'évolution
par l'attitude de sa fille.
Voilà, et qui donc, elle, apporte un contrepoint qui, en fait, change légèrement le propos de la série, quoi. C'est-à-dire qu'il peut... enfin, j'ai vu aussi, enfin, des films, par exemple, où les personnages de sorcières sont, enfin, où le propos est beaucoup plus conservateur, parce que c'est simplement des personnages de sorcières qui deviennent des bonnes épouses et des bonnes ménagères, et c'est présenté comme un happy end. Et il n'y a pas du tout ce contrepoint un peu sardonique qu'on peut avoir dans Ma sorcière bien-aimée.
Pensez à quelles œuvres, quels films ?
J'ai épousé une sorcière, et puis L'adorable voisine, en fait, qui sont deux films qui datent de, je sais plus, peut-être les années 50. Voilà, et qui sont vraiment avec des morales hyper traditionnelles, où en plus la sorcière perd ses pouvoirs au moment où elle tombe amoureuse, donc elle fait une sorte de choix de la normalité et de d'un rôle beaucoup plus conventionnel au nom de l'amour, en fait.
Et est-ce que vous avez l'impression que il y a une évolution sur ce plan-là dans les personnages de sorcières dans la pop culture, ou est-ce qu'on est plutôt sur une ligne plane, c'est-à-dire qu'elles finissent toujours par devenir la parfaite ménagère, rang, voilà, ouais. Rentrer dans les rangs. Ouais.
Non, je ne crois pas. J'ai l'impression que ça a changé, c'est-à-dire qu'elles ont peut-être rajeuni et puis. Et effectivement, il y a pas... Non, on a vraiment fait du chemin de ce côté-là. C'est plutôt... enfin, Hermione n'est pas du tout un personnage tarte, au contraire. Je pense que c'est... Enfin, Willow, évidemment, tout sauf ça, quoi. Elle n'a pas du tout fini en bonne épouse et bonne ménagère. Donc non, peut-être qu'on progresse de ce côté-là, ouais. Oui.
Puis c'est vrai que les figures sont plus jeunes. Enfin, je pense à American Horror Story, où il y a une saison entièrement consacrée à un convent de sorcières qui ont toutes entre, je sais pas, 16 et 19 ans. Donc c'est autant de figures auxquelles les jeunes filles d'aujourd'hui peuvent s'identifier tout à fait.
Ouais. Super.
Merci beaucoup.
Merci.
Je vais proposer à Maëline de venir autour de la table. Maëline, nous venons d'Allemagne. Ça fait beaucoup de chemin.
Bonsoir, donc je suis Maëline, j'étudie donc en Allemagne l'histoire et la littérature. Et donc on remarque avec votre livre que les sorcières, elles sont un peu partout dans différents domaines, dans des séries, dans des films, dans des livres. Et comment justement cette image de la sorcière est devenue un modèle féministe ?
Je pense que ça, la première féministe, à ma connaissance, qui se soit emparée de cette histoire, c'était une Américaine qui s'appelait Matilda Jocelyn Gage, qui était, c'était à la fin du 19e, et c'était une femme assez étonnante qui militait pour l'abolition de l'esclavage, pour le droit de vote des femmes, qui a même été, je crois, arrêtée pour avoir aidé des esclaves à s'enfuir. Et elle a écrit un livre dans lequel elle parle des chasses aux sorcières en Europe, et où elle dit, mais en fait, c'était une guerre contre les femmes. Et je crois que c'est la première à l'avoir dit. En tout cas, je n'ai pas vu d'autres traces de ça. Donc voilà, avec un propos déjà assez fort, parce qu'en fait, en Europe, c'est revenu sur le devant de la scène assez tard. C'est le mouvement féministe des années 70 qui a réhabilité les sorcières, mais avant, c'était pas... ou alors, ça existait, mais de manière très discrète. Et c'est intéressant parce qu'elle-même est devenue une sorcière, c'est-à-dire que c'était la belle-mère de l'auteur du roman Le Magicien d'Oz. Et il a fait d'elle un personnage de bonne sorcière dans Le Magicien d'Oz, qui est Glinda. En fait, c'est aussi le premier personnage positif de sorcière au cinéma et dans la culture populaire. Donc voilà, elle a été à la fois héroïne elle-même et enfin autrice elle-même et héroïne par ailleurs grâce à lui. Quoi.
D'accord. Donc aujourd'hui, être une sorcière, c'est devenu quelque chose de complètement positif.
Non, je suis sûre qu'il y a encore plein de gens qui vous le diront et ce sera pas spécialement un compliment. Ouais. Non, je pense que ça reste assez largement une insulte. Aux États-Unis, pendant la campagne présidentielle, ça a été très violent. C'est-à-dire que Hillary Clinton a été énormément traitée de sorcière par les républicains. Enfin, aux États-Unis, c'est assez vivace encore. Ils sont encore très marqués par les sorcières de Salem, par tout ça. Enfin, ça a vraiment laissé une trace très présente dans leur imaginaire. Et donc, il y a eu des représentations d'elles en sorcière, des montages sur YouTube où elle se retrouve avec le visage tout vert de la méchante sorcière de l'Ouest dans le magicien, dans le magicien d'Oz. Donc, ça reste évidemment une insulte, mais qui du coup est réappropriée. Du coup, il y avait des partisanes de Clinton qui portaient des badges, les sorcières pour Hillary, tout ça.
D'accord, merci beaucoup.
Et encore aujourd'hui, elles se réunissent sous la Trump Tower pour des rituels tous les mois, si je
veux dire. Ouais, tous les mois apparemment.
Oui, avec leurs bougies, tout ça.
Oui. Mmh. Ouais, il faut apporter une bougie orange, on se demande pourquoi. Et elle jette des sorts à Trump. J'espère que ça finira par marcher.
Ouais. Merci beaucoup, Maëline. Je vais proposer à Camille de nous rejoindre.
Alors, je m'appelle Camille, j'ai 23 ans et je suis urbaniste et je travaille plus spécifiquement sur le sujet des transports. Et donc, ma question, c'était, je me demandais s'il existait un lien entre la figure de la sorcière et le péché originel qui a été utilisé comme justification pour accorder une moindre place aux femmes dans la religion catholique.
Bonne question. Je suis pas sûre que dans la manière dont les inquisiteurs ont construit le récit du sabbat qui servait de base pour poursuivre les femmes pour sorcellerie, je ne suis pas sûre qu'il y avait vraiment de référence au péché originel. Après, on peut considérer que c'était la continuation d'une misogynie de l'Église qui existait depuis très longtemps. Et de toute façon, même avant le péché originel, il y a eu la boîte de Pandore. Enfin, cette idée que les femmes sont une source de destruction, on la retrouve vraiment partout et tout le temps. Et c'est quelque chose qu'on voit revenir dans les tableaux, notamment qui sont faits des vieilles femmes à l'époque des chasses aux sorcières, où il y a vraiment l'idée que la vieille femme a ce pouvoir maléfique et qu'elle sème la destruction autour d'elle. Il y a ce tableau que je décris dans le livre, dont le nom de l'auteur du peintre m'échappe, mais on voit une vieille femme décharnée, et puis derrière elle, un décor de désolation totale. Et on a l'impression que c'est elle qui a causé cette désolation, en fait. Donc c'est le vieux cliché misogyne de la femme destructrice qui sème le chaos. Ouais.
Et vous parlez un petit peu dans le livre, justement, du lien entre
Mot qu'on prononce pas tous les jours, religiosité et la chasse aux sorcières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu historiquement comment ça s'est déroulé?
En fait, on pense souvent, et moi je le pensais aussi avant de lire un peu sur ce sujet, que c'était essentiellement l'Inquisition qui a poursuivi les sorcières. Et en fait, on s'aperçoit que non, c'est-à-dire, c'était pas des tribunaux de l'Inquisition. L'Inquisition s'occupait plutôt des hérétiques, donc c'était plutôt des tribunaux civils, en fait. Alors après, évidemment, c'est une époque où, de toute façon, c'était impensable de pas croire en Dieu, de pas croire au diable, donc il y avait une religiosité qui imprégnait toute la société, et on voit que même les quelques voix masculines qui se sont opposées à la chasse aux sorcières, qui se sont élevées contre ça en y voyant une barbarie, même ces hommes-là croyaient aussi au diable, il n'y avait pas de grand recul possible par rapport à ce discours religieux. Donc non, c'était des tribunaux civils, mais après, notamment le manuel utilisé par les juges était l'œuvre de deux dominicains, donc c'est-à-dire qui est un manuel, le marteau des sorcières, le Malleus Maleficarum, qui est écrit à la fin du 15e, si je me rappelle bien, et c'est vraiment un manuel de misogynie extrêmement violente. D'ailleurs, il s'appelle le marteau des sorcières, c'est-à-dire il dit bien que la sorcellerie est un crime féminin, et voilà, c'est vraiment la détestation des femmes en général, donc. Et c'est un livre qui a eu une énorme influence. C'est probablement le premier best-seller, peu après l'invention de l'imprimerie, qui a répandu ses idées d'un bout à l'autre de l'Europe et jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Amérique, en Nouvelle-Angleterre à l'époque. Donc, qui a eu une influence énorme et qui, lui, était vraiment l'œuvre de deux religieux, pour le coup.
C'est très intéressant. On y reviendra, d'ailleurs, je pense, dans la suite de notre échange sur la diffusion de ces idées en dehors de l'Europe, parce qu'on a l'impression que c'est une problématique très occidentale. Et en réalité, moi, j'aimerais bien savoir si ça a dépassé ses frontières. Mais en attendant, je vais proposer à Juliette de nous rejoindre autour de la table.
Bonsoir. Du coup, je m'appelle Juliette, j'ai 26 ans et je suis prof. Et du coup, ma question, c'est exactement ça. Donc,
je t'ai spoilé, super.
Non, c'est parfait. Du coup, est-ce que le rejet de la puissance magique sauvage des femmes est typiquement européen? Alors, vous y répondez en fait dans votre livre avec, quand vous parlez des camps de sorcières en Afrique, notamment.
Mmh, ouais.
Mais c'est vrai que... Du coup, je vous laisse répondre à la question.
Ce qui est frappant, c'est que c'était pas forcément... beaucoup de victimes des chasses aux sorcières en Europe à l'époque n'étaient pas des femmes spécialement puissantes. C'est ça qui est assez frappant. C'est que certaines avaient un savoir particulier, par exemple, étaient guérisseuses et donc... étaient mal vues, à cette époque-là, leur activité qui existait depuis toujours a commencé à être mal vue et perçue comme maléfique et diabolique. Donc elles avaient un savoir qui paraissait menaçant, il fallait les mettre au pas, les contrôler. Mais après, c'était beaucoup un phénomène de bouc émissaire, donc ça pouvait être vraiment n'importe quelle vieille mendiante, qui tout d'un coup, on se défoulait sur elle parce que les récoltes avaient été mauvaises. On parle aussi du refus d'aumône, c'est-à-dire les riches qui refusaient l'aumône à une vieille mendiante dans la rue. Et puis, peu après, ils tombaient dans l'escalier. Et donc, ils pensaient qu'elle leur avait jeté un sort. Donc, ils transféraient une espèce de culpabilité sur elle. Et donc, elles n'étaient pas forcément puissantes, mais on leur prêtait une puissance complètement folle. Il y a ce truc où les tribunaux anglais avaient dit à un moment qu'il fallait arrêter de préciser toujours quand on dénonçait une sorcière qu'elle était très puissante parce que ça devenait un peu redondant et qu'on avait compris qu'elle était puissante et que ça apportait rien de le préciser. Donc il y avait vraiment une frayeur autour de ces femmes. Et je pense que les féministes qui après se sont emparées du personnage se sont dit puisque vous nous considérez comme si puissantes, on va l'être vraiment en fait. Mais j'ai toujours pas répondu à ta question en fait, ça va pas du tout. Et effectivement, ça existe encore aujourd'hui en dehors de l'Europe, c'est-à-dire en Inde, dans certains pays d'Afrique comme le Ghana, la Zambie, le Nigeria. C'est-à-dire, il y a toujours des femmes qui sont aujourd'hui traitées de sorcières, parfois tuées pour ça, ou regroupées dans des camps. C'est un phénomène encore contemporain sur lequel d'ailleurs. Sylvia Federici, qui a écrit ce livre très fameux, Caliban et la sorcière, vient d'écrire un nouveau livre là, qui sort ce mois-ci, je crois.
Super. Merci.
Merci. Et je vais proposer à Evelyne de nous rejoindre.
Bonsoir. Moi, je m'appelle Evelyne, j'ai 25 ans. Je finis des études de gestion de projets culturels. Et là, je m'oriente vers l'écriture et potentiellement le journalisme culturel. Alors ma question, elle est un petit peu parallèle au sujet du livre. Je voulais savoir si vous avez croisé au cours de vos recherches la figure du sorcier homme. Est-ce que vous pouviez nous en dire sur le sujet ?
Très peu en fait. Il y a eu des sorciers bien sûr, il y a même eu des régions d'Europe où il y a eu essentiellement des hommes accusés. C'était marginal parce que autrement le rapport est vraiment massif, quoi. C'est-à-dire c'est 80-85% de femmes accusées et condamnées, donc c'est vraiment massivement féminin. Mais il y a eu comme ça ces exceptions où c'était surtout des hommes qui étaient accusés. Mais j'ai pas beaucoup étudié ce cas de figure. Et il me semble que beaucoup d'hommes qui étaient accusés de sorcellerie l'étaient en fait par association avec une femme, c'est-à-dire... parce qu'ils étaient époux de sorcières ou en fait ça c'est aussi peut-être ce qui explique que les hommes aient très peu défendu les femmes contre les accusations de sorcellerie parce qu'il y avait une frayeur énorme évidemment, c'est-à-dire que s'ils les défendaient un mari dont la femme était accusée de sorcellerie était forcément tenté de se désolidariser d'elle et de l'accuser à son tour. Parce qu'il risquait d'être lui aussi condamné. Quand on voit l'horreur que c'était, c'est-à-dire la torture, la mort sur le bûcher, on comprend que ça en est dissuadé pas mal, en fait.
J'allais dire, vous décrivez ça très bien dans le livre, l'horreur de ce que ça a pu être, et c'est vraiment très, très prenant. C'est nécessaire.
j'ai essayé d'expédier ça en trois lignes, mais ça reste malgré tout... C'est pas une lecture très confortable.
Ouais. Merci beaucoup.
Merci.
Et moi, la question que je me posais et qui fait un peu écho à celle-ci, c'est... reste donc avec nous, écoute, on s'installe.
Je me demandais si
dans leur rapport avec la nature et les pouvoirs, les druides et les magiciens n'étaient pas justement des sorcières, eux aussi. C'est simplement qu'on les a désignés avec d'autres termes et on les a pas mis au bûcher. Ils ont un rapport à la nature qui est un petit peu similaire à celui qu'on a quand on pense aux sorcières, sauf qu'eux ne sont pas brûlés vifs. Hein. Je me suis posé la question si c'était pas...
Mais même les femmes qui étaient magiciennes et guérisseuses ont été tolérées pendant très longtemps. C'est simplement qu'il y a eu un moment où il y a eu une sorte de... tout d'un coup, on s'est mis à voir le diable derrière elles, en fait. Alors que c'était des femmes qui souvent avaient bonne réputation dans leur communauté. Enfin, c'était le seul médecin que les gens du peuple avaient les moyens de payer et qui, en fait, elles étaient très compétentes parce que elles apprenaient de leur expérience, elles connaissaient les plantes, elles connaissaient très bien le corps humain. Donc, aujourd'hui encore, il y a certaines plantes qui sont utilisées très largement. Par la médecine moderne, c'est des connaissances qu'on doit aux sorcières, en fait. Et donc, il y a eu vraiment un mouvement très particulier pour que des communautés entières se retournent contre des femmes qui, en fait, leur avaient été bénéfiques, les avaient secourues pendant très longtemps.
C'est assez incroyable. Et c'est vrai que c'est très bien décrit, c'est vraiment très bien décrit dans le livre et c'est très frappant par certains passages. Merci beaucoup. Je propose à Morgane de nous rejoindre.
Bonjour. Alors, je m'appelle Morgane et je viens d'Orléans. Donc, vraiment, je suis prédestinée aux sorcières et aux bûchers.
Déjà.
Et je voulais revenir donc sur la question des sorcières traditionnelles qu'on voyait guérisseuses, qui étaient souvent guérisseuses et qui avaient une connaissance du corps, et notamment du corps des femmes. Et donc moi, je voulais savoir si le retour de l'image de la sorcière en tant qu'icône féministe, c'était pas une manière aussi de mettre en avant une meilleure connaissance du corps féminin par les femmes.
Ouais, c'est vrai, c'est assez juste. Je pense que ça correspond assez bien aussi... à une époque où à la fois il y a un mouvement de révolte et de contestation face aux violences médicales, en fait, aux violences gynécologiques, obstétricales. On voit vraiment monter une espèce de ras-le-bol. C'est intéressant d'ailleurs parce que ça a éclaté en France l'été avant MeToo et c'était déjà un peu, ça annonçait déjà un peu ce mouvement de... Enfin voilà, des choses que les femmes ont tolérées, avec quoi elles ont vécu pendant des années et des années, et tout d'un coup, il y a une sorte de ras-le-bol qui s'exprime. Donc oui, et peut-être aussi, effectivement, je pense aussi à tout le mouvement de réhabilitation des règles. D'ailleurs, Jack Parker, qui se définit elle-même comme sorcière, a écrit un livre sur les règles, et il y a aussi ce mouvement de se dire on en a marre d'entendre toujours que notre corps est dégoûtant et d'avoir honte et de devoir raser les murs quand on a nos règles je pense que ça participe effectivement d'un mouvement de réappropriation de restauration de l'estime de soi et particulièrement de l'estime de soi par rapport au corps, ouais.
Et peut-être pour pousser un peu plus loin la réflexion, aussi au sujet de la sexualité féminine, qui est un grand tabou que les hommes connaissent très mal. Enfin, bref, je ne vais pas parler de mon histoire personnelle, mais voilà. Mais enfin, peut-être aussi que la sorcière, c'est aussi la personne qui connaît son corps, et notamment dans la sexualité, et qui peut en jouir comme elle veut et comme elle sait.
Ouais, c'est vrai. En tout cas, à l'époque, il y avait, les inquisiteurs étaient, les chasseurs de sorcières étaient obsédés par la sexualité des femmes et par l'idée qu'elle était dangereuse. En fait, il y avait l'idée qu'elle, notamment les sorcières étaient accusées de voler les pénis des hommes et il y avait des représentations qu'elles les rangeaient dans des nids d'oiseaux et qu'elles les cachaient, qu'on les retrouvait jamais. C'était horrible. Ou dans des boîtes où ils restaient à frétiller désespérément.
Et vous faites pas ça tous les week-ends en fait
Donc oui, il y avait une sorte, enfin tous ces fantasmes, parce que finalement il faut lire tous les récits de Saba et de Vol sur un balai comme, oui, en plus le Vol sur un balai c'est un symbole phallique, il y avait l'idée qu'elle, qu'elle mettait une sorte d'onguent sur le balai avant de le chevaucher, donc c'était presque comme du lubrifiant. Oui, tout ça, quand on réfléchit au psychisme des hommes qui ont élaboré ces histoires, il y a vraiment de quoi rester assez rêveuse, donc... oui, c'est sûr. Et peut-être aussi dans les stéréotypes sur les vieilles femmes, notamment, c'était très, c'est très frappant. Il y a le dégoût absolu de la sexualité des vieilles femmes qui est considéré. Enfin, on pense qu'elles ont un désir complètement débordant et incontrôlable. Et en plus, c'est la femme ménopausée dont le désir ne peut même plus servir à faire des enfants. Donc, c'est vraiment elle.
C'est honteux pour des femmes de juste faire l'amour sans procréer.
Voilà.
Donc c'est...
Ouais. Donc, en ayant en plus un corps qui n'est plus jugé désirable par les hommes. Donc, ouais.
Vraiment. C'est vraiment marquant à quel point on retrouve donc dans des idées qui étaient propagées il y a cinq siècles des répercussions encore aujourd'hui dans l'imaginaire collectif, hein, notamment l'image des femmes âgées. Ouais. C'est très très frappant, hein, les parallèles. Je dis frappant, mais en fait je pense flippant. et je trouve que c'est en ça aussi que ces travaux sont essentiels, les travaux que vous menez, c'est qu'ils mettent en lumière le fait qu'en cinq siècles, finalement, peu de représentations ont évolué, notamment par rapport au corps des femmes et de leur sexualité.
Merci.
Merci beaucoup. Et j'appelle Laure à la barre.
C'est très introductif.
Oui, c'est vrai.
Bonsoir. Je m'appelle Laure, j'ai 27 ans et je suis ingénieure travaux sur un chantier. Vous avez évoqué rapidement tout à l'heure le phénomène des camps de sorcières en Afrique. Mm-hmm. Et de manière un peu plus large, je voulais savoir si la chasse aux sorcières, que ce soit au sens propre comme au sens figuré, existait encore à l'heure actuelle et si oui, sous quelle forme prenait-elle ?
Bah oui, effectivement, il y a ces cas de camps de sorcières, toujours, de femmes qui sont lynchées ou brûlées, parce que tout d'un coup, il y a une sorte de, voilà, de mouvement contre elles, complètement incontrôlable. Donc ça reste une réalité contemporaine, en fait, même si en Europe, ça appartient à l'histoire. Et bon, évidemment, le contexte dans lequel on a beaucoup parlé de chasse aux sorcières ces derniers mois, c'était... l'affaire Weinstein aux États-Unis et plus largement, enfin, toutes les accusations de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle portées par des femmes. Et c'est assez... Et évidemment, c'est un contresens absolu de parler de chasse aux sorcières dans ce cas-là, puisqu'on voit bien que c'est les accusatrices qui sont les sorcières, en fait. C'est-à-dire, c'est elles qui... alors, il y a tout ce discours complètement délirant... de certains hommes comme quoi elles font ça pour la notoriété, pour l'argent, etc. Et en fait, concrètement, quand on voit le calvaire que c'est de dénoncer un agresseur, de dénoncer un harceleur, on l'a vu avec l'affaire Cavano aux États-Unis, là, où maintenant, non seulement... enfin, c'est frappant parce que voilà, ce type a été nommé juge à vie à la Cour suprême, donc avec un pouvoir complètement exorbitant sur la vie des Américains pour les 30 prochaines années. Trump est capable de dire oui, il faut vraiment, il veut qu'on poursuive ces accusatrices et qu'on interdise de porter ce genre d'accusation en disant ça peut détruire des vies. Et en fait, c'est un retournement complet parce qu'on voit bien comment concrètement c'est les vies des accusatrices qui sont détruites en général. Donc, enfin, sans compter voilà le fait qu'au niveau de, quand on va à un procès, on peut complètement se faire enfin. Subir un déni de justice énorme, enfin voilà. Donc c'est ouais, peut-être que les accusatrices aujourd'hui sont les nouvelles sorcières. Ouais.
Merci. Moi, une question que je me suis posée tout au long de la lecture du livre, c'est en fait, comment est-ce qu'on devient sorcière ? Est-ce qu'on s'autoproclame ou est-ce qu'on est désignée sorcière ?
Vous voulez dire dans le contexte des chasses aux sorcières ? Non, il vaut mieux pas s'autoproclamer. Non, c'est vraiment une accusation. C'est l'accusation la plus infamante. Enfin, à l'époque, quand on vous traite de sorcière, c'est vraiment la fin. C'est-à-dire que c'est le début d'un engrenage duquel il est pratiquement impossible de sortir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système de défense dans les procès en sorcellerie. C'est des femmes du peuple qui ont souvent aucune... qui sont complètement paniquées devant leurs juges, devant les interrogateurs, qui n'ont vraiment aucun recours d'aucune sorte. Et d'ailleurs, on voit bien, notamment, je crois que c'est à Paris, que, en étudiant le nombre de recours qui ont été déposés, c'est-à-dire des hommes qui ont voulu protester contre leur condamnation, c'était surtout des hommes, justement. C'est-à-dire qu'il y a une forte proportion, une plus forte proportion d'hommes qui ont fait appel de leur... Enfin, je ne sais pas si c'était un appel au sens strict, mais bref, qui ont contesté le jugement que de femmes, en fait. Donc, c'est vraiment... voilà, une fois que... Et en plus, sous la torture, évidemment, les femmes, évidemment, confessaient n'importe quoi et... Et on peut même penser qu'elles y croyaient elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est une croyance qui était tellement répandue dans l'ensemble de la société à l'époque que forcément, il y en a eu un certain nombre qui ont dû être convaincus et épouvantés de découvrir qu'elles étaient des sorcières. C'est-à-dire si le piqueur trouve sur votre corps la marque du diable, un certain nombre de ces femmes ont dû réellement croire qu'elles étaient marquées par le diable. Il n'y avait pas vraiment d'en dehors possible à cette croyance, en fait.
Et on parle principalement de femmes du peuple, mais est-ce que les femmes de la haute société étaient accusées des mêmes maux ou est-ce que c'était vraiment quelque chose... Enfin, que c'était des accusations qui visaient une certaine classe sociale ?
Non, je crois que c'était vraiment essentiellement des femmes du peuple, c'est-à-dire c'était beaucoup plus facile. Et puis, alors il y a eu peut-être des accusations... Enfin, j'ai lu quelques histoires de ce genre-là, c'est-à-dire dans la haute société, quand on veut s'en prendre à un homme puissant et qu'on n'ose pas s'en prendre directement à lui, on traite sa femme de sorcière, on l'accuse de sorcellerie. Donc il y a eu des cas comme ça, mais on s'aperçoit que c'est plutôt à la fin des chasses aux sorcières et que dès que ça s'étend aux classes supérieures, ça s'arrête. C'est marrant, hein. C'est-à-dire que dès que ça touche les élites de la société, tout d'un coup, on se dit « Ah non, mais il faut arrêter avec ces... » Et enfin, c'est pas le seul facteur qui explique que les chasses s'éteignent. Il y en a plein d'autres, mais c'est l'une des explications. Ouais.
Je voudrais revenir sur les trois axes que vous avez décidé de développer dans Sorcière. En fait, la sorcière, on a l'air de pouvoir la définir par trois caractéristiques. C'est une femme indépendante, une femme sans enfant et ou une femme âgée. Du coup, je me suis rendu compte que ce que vous constatez, c'est qu'il existe encore une différence très forte entre le désir affectif des hommes et celui des femmes dans notre société actuelle. Selon vous, quelles sont les sources de cette différence de traitement entre le désir affectif des hommes et le désir affectif des femmes ?
Peut-être juste une petite précision d'abord, quand je parle des femmes sans enfants, c'était pas au sens strict un type de femme qui était accusée à l'époque, c'est-à-dire c'est plutôt le fait que les chasses aux sorcières traduisaient une espèce de hantise par rapport au pouvoir des femmes sur leur fécondité, et les guérisseuses étaient attaquées aussi en tant qu'avorteuses, donc il y avait une anxiété très forte du pouvoir sur la procréation, sur... Enfin, ils voulaient que les pauvres fassent des enfants et ils avaient très peur que les pauvres s'abstiennent. Et notamment, le sabbat, c'est défini comme une fête stérile. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, c'est la fête au cours de laquelle les femmes peuvent copuler sauvagement et ne jamais tomber enceinte. Donc voilà, ça traduit aussi la peur du pouvoir de l'époque. Mais c'est pas forcément... Enfin, beaucoup de femmes accusées avaient évidemment des enfants et parfois leurs filles étaient elles-mêmes accusées puisqu'on pensait que c'était héréditaire. Donc voilà. Mais je comprends pas bien ce que vous voulez dire par désir affectif.
Beaucoup de femmes dans notre société sont encore élevées dans l'idée que pour s'accomplir, elles doivent trouver un mari,
poser... et c'est notamment ce que relève Liv
Strömquist, ouais.
Merci.
dans les sentiments du prince Charles, ouais. Qui est une bande dessinée vraiment très intéressante sur ce sujet-là. C'est cette différence, effectivement, d'éducation entre les femmes et les hommes.
Oui, c'est vrai. Effectivement, j'en ai parlé dans le chapitre sur les femmes indépendantes, parce que je suis très frappée de voir comment... aujourd'hui, on peut, enfin pas dans tous les cas évidemment, mais souvent les femmes ont les moyens matériels, juridiques d'être indépendantes. Et il y a un frein qui est affectif et mental, c'est-à-dire on a toujours du mal à pas se concevoir comme une pauvre petite chose si on n'est pas lié à un homme, si on n'a pas, si on n'est pas mère, enfin, comme si les femmes devaient se définir avant tout et peut-être même uniquement par leur lien à d'autres personnes. Et je trouve que c'est toujours très difficile de se penser en tant que femme comme individu, c'est-à-dire avec des projets, avec des envies de réalisation de soi, d'écoute de ses besoins, de ses envies, de la manière dont on a envie de vivre. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que... ça n'empêche absolument pas d'avoir des liens par ailleurs, évidemment pas. C'est infiniment précieux pour tous les êtres humains, mais je crois que c'est toujours très difficile de nouer des liens qui ne soient pas sur le mode du sacrifice, où on se retrouve très vite à se faire passer en second... à mettre un peu sous le boisseau tout ce qu'on peut avoir comme projet personnel, comme le temps pour soi, par exemple. J'ai beaucoup aimé le dernier livre de Titiou Lecoq, où elle fait remarquer que le temps pour soi, quand on parle du temps pour soi pour les femmes, c'est toujours du temps pour s'épiler, pour se faire un masque. Et c'est vrai que la notion de temps personnel, de temps que les femmes peuvent avoir pour elles-mêmes, pour faire ce qu'elles ont envie de faire... que ce soit lire un livre, écrire, peindre, dessiner, jouer dans un groupe, enfin n'importe quoi, tout ça est encore vraiment très difficile à faire passer, à faire accepter.
Mmh. C'est parfait, ça répond parfaitement à la question. Vous racontez une anecdote personnelle sur la fin du film Une autre femme de Woody Allen, qui...
Ah, oui. C'est la fin de film qui vous a beaucoup marqué. J'aimerais bien que vous
la racontiez ici et que en fait vous disiez aussi en quoi ça montre la pression que les femmes ont à enfanter en fait dans notre société.
Une autre femme, j'ai dû le voir quand j'avais je sais pas peut-être 17-18 ans et je me rappelle que j'avais été très un peu troublée et traumatisée. Traumatisée, c'est peut-être un peu fort, mais perturbée parce que donc c'est un personnage de femme. Je crois que ça fait très longtemps que je ne sais plus. Elle est psychanalyste, je crois. Et elle a peut-être 50, 60 ans. Et il y a un moment dans le film, à la fin du film, je crois, où elle s'effondre et où elle dit « J'ai raté ma vie, je crois que j'aurais voulu un enfant parce qu'elle n'en a pas ». Et quand j'avais vu ça, je m'étais dit, oula, parce que, en fait, déjà à l'époque, moi, je voulais pas d'enfant. Et je me suis dit, oh, ça veut dire que moi aussi, ça peut m'arriver, c'est-à-dire quand j'aurai cet âge-là, je vais peut-être aussi m'effondrer en regrettant, etc. Et il m'a fallu quelques années pour me dire, mais en fait, c'est la vision de Woody Allen. Donc, c'est pas forcément une sorte de vérité intangible et valable pour toutes les femmes en toutes circonstances. Et c'est même. Depuis, je me rends vraiment compte à quel point la menace du regret est quelque chose qui est utilisé contre les femmes. C'est-à-dire que souvent, le droit à l'avortement est acquis, enfin en tout cas dans les principes, dans la loi, même si dans la pratique, c'est une autre affaire. Mais du coup, c'est comme si on rattrapait les femmes qui ne veulent pas d'enfants à un autre stade en leur disant « D'accord, si vous voulez, n'en ayez pas ». Vous avez la contraception, vous avez l'avortement, donc matériellement, juridiquement, rien ne vous oblige à devenir mère. Mais attention, si vous ne le faites pas, ça va être horrible. Et un jour, vous allez vous réveiller. Et en fait, on s'aperçoit que dans les études qui ont été réalisées auprès de femmes qui avaient choisi de ne pas avoir d'enfants, il y a très peu de regrets, en fait. Donc, c'est assez... ça donne à réfléchir.
Ça m'a marqué parce que c'est une préoccupation que beaucoup de femmes partagent, en fait, celles notamment qui ne savent pas si elles veulent des enfants. Et moi, par exemple, ça a été un questionnement et cette peur du regret, elle est extrêmement présente, et notamment la peur de prendre la décision trop tard et de plus pouvoir revenir en arrière. Et du coup, de lire effectivement qu'il existe des études qui montrent qu'en fait, le regret n'est pas si présent que ça chez les femmes qui finalement n'ont pas fait d'enfants, je trouve que c'est très décomplexant. Et c'est en ça aussi que le livre, moi, personnellement, m'a apporté beaucoup du grain à moudre, en fait, dans ma façon de voir les choses. Ok, super, merci beaucoup. Et une autre anecdote qui m'a marquée, j'ai découvert en lisant Sorcière d'où venait l'image des femmes à chat.
Ah, ouais. Après, je ne sais pas si ça vient vraiment de là. Enfin, c'est vrai que moi, le parallèle me frappe énormément, c'est-à-dire que... les sorcières à l'époque étaient souvent soupçonnées d'avoir des familiers, c'est-à-dire des animaux de compagnie qui étaient eux-mêmes diaboliques et en particulier des chats. Et souvent, elles étaient brûlées avec leurs chats. Et parfois même, on brûlait des chats tout seul. Il y a une sorte de folie. Voilà, on a jeté des chats au bûcher, comme ça, ce qui était vraiment... vraiment très très bête, parce que dans les époques d'épidémie de peste, les chats étaient quand même bien utiles contre les rats, donc ça favorisait aussi la propagation de la peste. Et c'est vrai que, voilà, moi je vois ce parallèle entre la sorcière et son familier et ce qu'on appelle aujourd'hui la célibataire à chat, c'est-à-dire. Et ça m'intéresse parce que c'est une figure de. Enfin, la sorcière, du coup, c'est une figure de puissance derrière un stéréotype qui, aujourd'hui, est considéré comme plutôt un peu pitoyable. Et moi, je me demande si, derrière la pitié, il n'y a pas toujours cette même peur, en fait, de la femme indépendante, de la femme qui n'est pas sous la coupe d'un homme, qui n'est pas contrôlée par un homme, en fait, qui est une sorte d'électron libre dangereux. Voilà.
Mmh. Mais ça m'avait... Je connaissais... Enfin, je n'avais jamais fait ce lien-là, et je trouve que... j'aimerais bien parler avec vous de des raisons qui vous ont poussé à écrire sorcière, parce que on a un peu fait le portrait des sorcières. Qu'est-ce qui vous a motivé quand vous avez commencé à faire des recherches sur les sorcières? Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à diffuser leurs histoires?
J'y suis arrivée un peu en biais à ce livre, donc. Je me suis pas dit d'emblée je vais faire un livre sur les sorcières, c'est-à-dire j'ai commencé, je ruminais sur divers sujets sur lesquels j'avais envie d'écrire, et il y avait d'une part, j'avais envie d'écrire sur les femmes et l'âge, et j'avais envie d'écrire sur les femmes qui veulent pas d'enfants, et j'hésitais entre les deux, aucun sujet ne me séduisait vraiment, enfin, j'avais commencé un peu à écrire sur les deux, mais c'était pas très... Ça m'ennuyait moi-même, donc voilà. Et à un moment, je me suis dit, en fait, toutes les deux sont des figures de sorcières, d'une certaine manière. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes qui ne veulent pas d'enfants, souvent, on n'a pas une très bonne image, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout de suite le présupposé que vous n'aimez pas les enfants, que vous n'avez pas de cœur, que vous êtes quand même toujours un peu une créature maléfique. Et du coup, j'ai commencé à lire des livres sur l'histoire des chasses aux sorcières en me demandant si ça correspondait vraiment, si mon intuition se vérifiait. Et il m'a semblé que oui. Et à la lecture, c'est aussi la figure de la femme indépendante qui s'est ajoutée aux autres et qui s'est imposée comme un autre trait important des femmes qui étaient réprimées chez les femmes à l'époque.
Vous espérez une prise de conscience de ces problématiques-là? Quelle est, dans vos travaux, vous faites émerger des problématiques dont on entend assez peu parler, en fait, dont on débat assez peu dans l'espace public. Est-ce que, j'imagine que du coup c'est un souhait en fait, que ce débat émerge sur la place des femmes dans la société?
Oui, idéalement. après, je crois que je réfléchis même pas aussi loin, en fait, quand je commence un livre. C'est-à-dire que je m'attaque vraiment à des problèmes auxquels je suis confrontée moi-même et sur lesquels je trouve pas... sur lesquels j'ai envie de faire une synthèse parce que je trouve rien de complètement satisfaisant dans ce que je peux lire par ailleurs. Beauté fatale, c'était ça. C'est-à-dire que là, ça partait vraiment de mes interrogations à moi face à l'univers de la mode et de la beauté qui suscitait un mélange très compliqué de sentiments, c'est-à-dire à la fois de la fascination, de l'exaspération, du rejet, de la révolte, enfin vraiment un mélange très complexe que du coup j'avais envie de débrouiller, et voilà, écrire le livre était la meilleure manière de le faire, en espérant aussi évidemment que ça puisse servir à d'autres. Mais je crois que je pense pas trop à un débat de société, je pense vraiment à comment ça m'est utile à moi et comment ça peut du coup aussi être utile à la lectrice en fait. Et peut-être même au lecteur. Donc, ça part vraiment d'un truc beaucoup plus basique.
Non, mais je crois qu'on a le même mouvement chez Mademoiselle, donc je suis complètement d'accord avec ça. Il y a un chiffre qui m'a marqué, mais je crois que Juliette voulait venir en parler autour de la table. Ça te dit ? Ouais, cool.
Bonsoir. Bonsoir, donc moi je m'appelle Juliette, je travaille aussi chez Mademoiselle, je suis rédactrice à la rubrique Société, Actu et Témoignages. Et du coup, en fait, tu parlais d'un chiffre qui t'avait marqué, toi, Marie, et qui m'a choquée aussi. Et donc on estime entre 50 000 et 1 million le nombre de femmes accusées, exécutées pour sorcellerie.
Ouais.
C'est un massacre, c'est un féminicide, je dirais. Et on n'a pas de source sûre, on n'arrive pas à estimer le nombre exact. Et on ne comprend pas, même je pense encore aujourd'hui, le massacre de Salem reste encore aujourd'hui un mystère. On ne comprend pas pourquoi c'est arrivé et comment. Enfin, ouais. On a des pistes, mais ça reste un mystère historique. Comment vous expliquez ça? Comment on arrive à recouper des sources fiables pour essayer de prouver en fait ce féminicide?
Ouais, c'est très difficile. Effectivement, les chiffres ont varié énormément. C'est-à-dire que dans les années 70, on parlait plutôt de 1 million, je crois. Et. Ouais, les chiffres. Hein. Et aujourd'hui. Non, pardon, je plaisante sur un sujet vraiment pas drôle. Mais. Non, ce qui est sûr, en tout cas, des dizaines de milliers. Et je crois que. On saura jamais, probablement. Et en plus, c'est vrai que c'est celles qui ont été exécutées officiellement. Après, il y a eu des lynchages, enfin il y a eu des femmes qui sont mortes en prison, donc il y a eu une sorte de, enfin c'est un massacre de toute façon, c'est aux États-Unis peut-être, c'est vrai que Salem aussi c'est des dizaines de morts, donc et ça reste complètement inexplicable, c'est des phénomènes de folie collective, de c'est vrai que c'est très troublant et perturbant de se dire que pendant plusieurs siècles, dans toute l'Europe, tout le monde a pu adhérer à ces récits complètement délirants et vraiment y croire et tuer au nom de ça. Donc, et on s'aperçoit que c'était aussi une manière de... Oui, effectivement, que c'était un féminicide, que c'était une manière de... qu'il y avait une misogynie très violente à l'époque, particulièrement violente. Et que c'était une manière de se débarrasser des gêneuses et la misogynie circulait par tous les canaux, c'est-à-dire autant par des plaisanteries, des libelles, enfin dans toutes les classes sociales il y avait un média qui véhiculait cette misogynie en fait, Mais après, en plus, ce qui est assez troublant, c'est de se dire qu'au-delà des chiffres, il y a quand même le fait que... non seulement il y a toutes celles qui ne sont probablement pas recensées dans ces chiffres, mais il y a aussi toutes celles qui ont dû être marquées forcément par ces process sans avoir jamais été accusées elles-mêmes. C'est-à-dire, c'était aussi un instrument de discipline collective. C'est-à-dire, le fait d'assister à un supplice devait avoir un effet... Enfin, imaginez que vous êtes une femme et que voilà, vous assistez à ça et que vous savez que pour le moindre mot de travers, vous pouvez subir le même sort. C'est quand même. Je pense que ça a vraiment dû façonner une personnalité féminine complètement différente de celle qui existait avant. Forcément, c'est impossible que ça n'ait pas été le cas.
Et vous savez si aujourd'hui il y a des groupes de chercheurs qui travaillent sur ces faits historiques qui sont tout de même assez importants?
Je ne sais pas du tout. Oui, il y a des historiennes féministes, notamment, qui s'en sont emparées. Enfin, moi, j'ai lu Anne Barstow, dont le livre date des années 90. Donc, Sylvia Federici aussi s'est penchée sur la question, sans être historienne. Elle, pour le coup, elle est philosophe. Mais oui, je crois que j'espère que ça va être le cas. Parce que c'est vrai, quand on vous lit les historiens, c'est assez frappant de voir comment... comment la misogynie perdure, y compris chez des historiens qui traitent de sujets et qui ne trouvent pas génial de brûler des femmes pour sorcellerie. C'est-à-dire que malgré tout, il reste... Enfin, il y a une sorte de regard condescendant sur les victimes, en disant « bon, c'était des folles, c'était des pauvres femmes ». On ne sent pas un regret et une empathie démesurée pour cet épisode.
J'avais juste une question, mais je ne sais pas si on a le temps.
Vas-y, vas-y.
Ok. Justement, c'est lié en fait à ce féminicide. Tout à l'heure, vous parliez que c'était des femmes issues des classes populaires très pauvres. Donc, on attribuait beaucoup de puissance à ces femmes qui, en fait, n'en avaient pas. Mais pourquoi est-ce qu'on avait si peur d'elles si elles n'étaient pas puissantes? Pourquoi est-ce qu'on on parlait de cette puissance-là pour elles, en fait? Pourquoi les hommes ont insisté pour...
pour dire ce sont des sorcières puissantes, alors que c'était littéralement des femmes qui étaient juste en fait seules, pauvres, et moi je m'interroge en fait.
Ouais, moi aussi, mais oui, après il y avait des facteurs d'explication, c'est-à-dire que c'était une époque où, enfin, à la fin du Moyen-Âge, c'est que c'est une époque où les femmes ont quand même une certaine place dans la société, alors toute proportion gardée, mais elles sont quand même présentes dans des corps de métier, enfin, elles sont dans les corporations, elles ont une certaine marge de manœuvre sur le plan juridique aussi. Et en fait, tout ça va se refermer, c'est-à-dire que c'est très mal supporté, c'est très mal vécu, cette présence. Et, c'est comme si on trouvait qu'elles prenaient un peu trop d'assurance et qu'il fallait les remettre à leur place. Et puis après, c'est une période très troublée aussi. Donc, enfin, il y a eu la grande peste au XIVe siècle, avec de nouveau des épisodes régulièrement dans les décennies qui ont suivi. Donc, et la grande peste, c'est un tiers de la population européenne qui meurt à cette époque. Donc, ça doit être un traumatisme collectif énorme. Ça doit créer une atmosphère vraiment de fin du monde. Et qui favorise l'espèce de fièvre, d'ébullition, dans laquelle il faut trouver des boucs émissaires. Et probablement que, voilà, comme la misogynie était installée depuis longtemps, ouais, que les femmes faisaient des boucs émissaires tout désignés, en fait.
Merci beaucoup.
Merci, Juliette. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que les sorcières cumulaient ces derniers mois pas mal d'attention médiatique. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a un élément déclencheur ? Je dis ça parce qu'on en entend, il y a ce livre qui sort, mais on a aussi de plus en plus de féministes qui se revendiquent et qui s'affichent comme des sorcières, avec un certain retour vers la nature et en prenant certaines valeurs. Et je me demandais si c'était un mouvement générationnel. Pourquoi est-ce qu'on en vient aujourd'hui à réhabiliter ces figures ? Pourquoi il y a ce... J'ai l'impression que c'est un mouvement qui est disparate, mais qui est en même temps en train d'émerger de façon assez forte. Mm-hmm. Est-ce que vous avez une analyse là-dessus ?
Oui, j'ai bien quelques idées, mais... je crois qu'il y a déjà le rapport à la nature est très important, c'est-à-dire que on s'aperçoit que la pratique de la sorcellerie aujourd'hui, c'est des femmes qui, c'est des choses très simples en fait. C'est pas une religion constituée, c'est juste une série de rituels que ces femmes-là pratiquent seules ou en groupe, chez elles, dehors. Enfin, ça peut être vraiment c'est quelque chose de très libre, enfin, et de très décontracté, en fait. C'est une forme de spiritualité très décontractée. Mais ce qui est important, c'est les éléments naturels dans tout ça. C'est-à-dire, c'est les cycles de la lune, le fait de s'entourer d'objets qui viennent de la nature, les cristaux, les plantes. Donc on peut y voir une sorte de volonté de retrouver un rapport à la nature, et c'est peut-être pas un hasard si ça émerge à un moment où on est plongé dans des désordres climatiques très importants, où on s'aperçoit qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas du tout dans le rapport de notre société à la nature, en fait. C'est comme s'il y avait une volonté de renouer des liens et de se sortir de cette espèce de vie très très coupée de ce qui nous permet de vivre, en fait. Donc il y a ça, et puis après peut-être aussi une époque comme à l'époque des chasses aux sorcières, c'est-à-dire un pouvoir politique très très dominateur et décomplexé, enfin un autoritarisme très fort. Alors évidemment, on peut penser à Trump, mais qui cumule vraiment tout, c'est-à-dire le pouvoir économique, puisqu'il est milliardaire et qu'il sert les intérêts des gens comme lui. Mais même Macron, en fait, est aussi dans une forme de mépris et de... Enfin, il y a une sorte de mépris des faibles qui s'exprime d'une manière très ouverte, peut-être plus ouverte que c'était le cas auparavant. Et face à ça, c'est peut-être pas pour rien que des femmes, essentiellement des femmes, se réclame de la sorcellerie parce que ça rappelle un peu le rapport de force de l'époque, il me semble. Et puis, évidemment, il y a toutes les questions de l'avortement qui reviennent de manière très forte. Enfin, aux États-Unis, c'est clair que les groupes witch, notamment, qui essaiment un peu partout, défendent les droits reproductifs et font clairement le lien avec la façon dont cette répression avait lieu déjà à l'époque.
Est-ce qu'on en a des mouvements
Non, il y a le Witch Block, il y a quelques groupes, quelques Witch Blocks à Paris et Toulouse notamment, mais j'ai l'impression que c'est un phénomène beaucoup plus. Ouais, en France, c'est pas du tout aussi développé en tout cas pour le moment.
Vous pensez que ça va se développer dans les années à venir ?
Ah, je sais pas du tout, je sais pas, on verra.
Ma dernière question, c'est est-ce que vous êtes une sorcière ?
Ah ouais, c'est marrant parce que tout le monde me la pose et je m'étais pas du tout préparée à répondre à cette question. Yes. J'y avais pas du tout pensé en écrivant le livre. Ce que je réponds en général, c'est ça dépend des jours. Donc non, je sais pas trop. J'ai écrit le livre et maintenant j'ai l'impression que j'observe tout ça d'un peu. J'observe aussi les effets que l'écriture du livre a eu sur moi et voilà, mais c'est pas. Bon, c'est un peu secondaire, je crois, si moi-même j'ai l'impression d'en être une ou pas. Mais,
Vous avez évolué après l'écriture du livre ?
Ah oui, je crois, oui. Ouais. Je ne
sais pas si c'est une question trop.
Non, c'était. Ben, je crois que ça m'a été utile, ça m'a permis de... Enfin, je sais pas, des trucs tout bêtes, mais notamment le non-désir d'enfant. Je crois que j'avais un peu du mal à en parler avant. Et maintenant, bon, ça... après avoir écrit le chapitre là-dessus, bon, je me sens beaucoup plus tranquille par rapport à ça. Je me sens peut-être plus tranquille par rapport à tous les sujets que j'ai évoqués, que ce soit l'indépendance, l'absence d'enfant, la vieillesse. Ça m'a un peu... ça m'a rendu plus assurée, plus affirmée par rapport à tout ça, je pense. C'est déjà pas mal, ouais.
merci beaucoup encore une fois, merci à vous
donc la dizaine de lectrices qui étiez là aujourd'hui, je vais dire vos prénoms: Aude, Anaïs, Sophie, Maëline, Camille, Juliette, Evelyne, Morgane
et Laure, et puis également Juliette de Mademoiselle qui était là. C'était super de partager
ce moment. Merci Mona,
merci
infiniment, merci à la maison d'édition Zone qui a permis d'organiser aussi ce moment avec vous. On est ravis d'avoir pu partager ça avec les lectrices et les lecteurs de Mademoiselle. Et je vais donc vous laisser avec une petite session acoustique, pas piquée des hannetons, que Louise a choisi. C'est Anna Kova qui a retrouvé sur la chaîne YouTube Mademoiselle Musique et qui a enregistré sa session il y a quelques semaines chez nous. Merci, bonne soirée.
1, 2, 3, 1, 2, 3... Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress. But when she gets so weary, try a little tenderness, yeah. You know she's waiting, just anticipating the things that you never, never, never possess. Yeah. But when she gets so weary, without them, try a little tenderness. That's all you got to do. That's all you got to do, yeah. It's not just sentimental, nah, 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 nah. She has her grief and care. But the soft words they have spoke so gentle. It makes it easier, easier to bear. You won't regret it, nah, 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 nah. Young girls, they don't forget it. Love is their whole happiness. But it's all so easy. All you gotta do is try, try a little tenderness, yeah. All you gotta do is squeeze it, don't tease it, never leave it. Got to, nah, nah, nah. Got to try a little tenderness, yeah. Little tenderness. Squeeze it, don't tease it, never leave it. Got to, na na na. Got to try a little tenderness, yeah. Woo!